19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, on va clore ce week-end tout en beauté, puisque vous le savez, nous sommes ensemble pour commenter, décrypter, analyser l'actualité, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, et à 20h, eh bien au sommaire, ce que je vous propose au menu, eh bien c'est de démarrer avec l'actualité, vous le savez, le 60e anniversaire, concernant la fin de la guerre d'Algérie, on commémore, et nous aussi, vous savez quoi, dans les informés sur Beurre FM, cette semaine, mais également la semaine prochaine, nous allons continuer à vous faire vivre cela avec des interviews de personnalités qui vont venir donc ici défiler sur notre antenne. Notamment, nous aurons dans une poignée de minutes un historien, Christophe Lafaye, qui sera avec nous pour nous parler de ce 60e anniversaire. Au sommaire également, vous savez, les trois sujets qui ont retenu notre attention, le Covid-19, nous parlerons aussi de Coquerel, qui est à peine élu donc président de la commission des finances, mais qui provoque déjà une polémique, eh bien, notamment avec Rokhaya Diallo, qui a tenu des propos. Bon, écoutez, on va revenir sur ces trucs, hein, sur ces, évidemment, événements. Et puis aussi également, le Parlement, et puis Emmanuel Macron qui se retrouve face, évidemment, à une situation un peu compliquée. Vous, 01 53 48 3000, vous êtes toujours les bienvenus. À 19h30, Michel Taube viendra livrer son billet d'humeur avec son quad neuf pour nous parler, vous savez quoi, de Roissy, d'Orly, puisque il y a une prise d'otage, non pas une prise d'otage version, évidemment, mais c'est que c'est les salariés qui prennent en otage, évidemment, tout le monde, pour dire, tout simplement, qu'il va falloir revaloriser les salaires. Voilà ce qui vous attend, c'est le programme. Et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
J'accueillerai mes invités débatteurs dans une poignée de minutes, mais avant tout, nous allons accueillir l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, vous le savez, c'est avec Christophe Lafaye, qui est historien. Bonjour Christophe Lafaye.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie de me recevoir dans votre émission, c'est un plaisir.
Eh bien écoutez, un plaisir partagé, mon cher historien. Dites-moi, vous, Christophe Lafaye, tout d'abord, dans quel état d'esprit on est à quelques jours, vous savez quoi, de ce 60e anniversaire, après les accords d'Évian, mais 60e, une commémoration qui s'annonce comment d'ailleurs, vous, historien Christophe Lafaye ?
Ben, je dirais une commémoration qui s'annonce empreinte de gravité, parce que vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous avons une actualité en France qui est assez riche, où finalement beaucoup de thématiques liées à la guerre d'indépendance algérienne reviennent dans l'actualité. Donc oui, de la gravité, et je dirais pour les historiens, un souci de travailler à peut-être mieux faire comprendre ce qu'a été cette guerre d'indépendance algérienne et ce qu'a été le colonialisme. Donc oui, de la gravité, mais aussi un plaisir de pouvoir partager nos travaux de recherche.
Ah, mon cher Christophe Lafaye, tout d'abord, vous êtes spécialiste notamment des relations concernant donc l'Algérie, la France. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce 60e anniversaire ? Sur quel, évidemment, sujet voulez-vous vous attarder pour nous préciser, nous apporter des éléments concernant ce 60e anniversaire de cette commémoration de l'indépendance de l'Algérie ?
Ben, disons que le 5 juillet, je vais être amené à intervenir à Paris sur une thématique qui est très importante, oui, qui est celle de l'écriture de l'histoire partagée entre les historiens et les historiennes algériens et algériennes, et les historiens et historiennes français.
Oui.
Voilà. Alors, cette thématique-là est une préconisation du rapport qui avait été remis par Benjamin Stora. Et je dirais que, en tout cas, dans tous les cas, il y a véritablement une urgence et un grand intérêt à pouvoir faire rencontrer les historiens des deux rives de la Méditerranée afin de pouvoir se saisir des questionnements autour de la guerre d'indépendance algérienne et travailler à plusieurs mains pour écrire cette histoire. Il y a eu jusqu'à présent beaucoup d'historiens...
cette histoire qui est une relation, oui, rappelons-le, mouvementée, 60 ans après les accords d'Évian, vous l'avez dit vous-même, vous historien, vous dites quoi ?
Ben, je dis que oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore d'instrumentalisation politique, hein, d'ailleurs, parfois des deux côtés de la Méditerranée, autour de cette histoire partagée.
Oui.
Et c'est d'autant plus urgent de donner la parole aux historiens et historiennes pour qu'ils puissent, qu'on puisse faire surgir, au-delà des instrumentations et des gesticulations politiques, la vérité, ce qui s'est réellement passé pendant ce conflit. Et quelle était la nature profonde du colonialisme et quel est son héritage. Et je dirais cette collaboration des deux rives de la Méditerranée est extrêmement importante parce que la vérité, elle n'est pas que d'un côté. Il y a effectivement des sources qui nous permettent de travailler en France et il y a bien évidemment aussi des sources et beaucoup de choses en Algérie. Et c'est en croisant ces éléments-là qu'on arrivera à établir la vérité sur toutes ces questions.
Justement, monsieur l'historien, vous dites l'impératif d'une commission franco-algérienne sur l'écriture de l'histoire commune entre la France et l'Algérie. Que peut-on dire sur ce sujet alors qu'on est à quelques jours de ce 60e? Cet impératif d'une commission franco-algérienne, ça veut dire quoi? Elle se traduit, elle se matérialise comment?
Ben, moi, je peux le prendre. Enfin, je peux vous donner un exemple par rapport à mon objet de recherche.
Oui.
Moi, je travaille actuellement sur l'utilisation de l'arme chimique par l'armée française pendant la guerre d'indépendance.
Oui.
Donc, effectivement, il y a en France un certain nombre d'archives, dont toutes ne sont pas accessibles. D'ailleurs, actuellement, les historiens et les archivistes demandent l'ouverture de toutes les archives. Nous avons des témoignages d'anciens combattants, nous avons des archives privées qui permettent de retracer cette histoire, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, il y a bien évidemment aussi des anciens combattants qui ont vécu cette histoire. Il y a des historiens qui collectent des témoignages dans les villages, etc. Et si un jour on veut faire la vérité profonde sur cette question, il va falloir réunir tout le monde, ces deux sociétés civiles, historiens français et historiens algériens, et écrire à plusieurs mains cette histoire. Voilà quels sont réellement les enjeux. Unir les sociétés civiles pour sortir des discours politiques, réunir les forces et écrire finalement l'histoire qui demande encore à être écrite.
Voilà. Cette histoire qui demande à être écrite, parfois on parle de tumulte, hein, vous savez, des mémoires. Vous, historien Christophe Lafaye, qu'est-ce qu'il faut inscrire dans les esprits quand on va parler de ce 60e anniversaire justement de l'indépendance de l'Algérie?
Eh bien, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire pour arriver justement à écrire une histoire qui soit plus une histoire de confrontation, mais une histoire de profonde qui s'appuie sur la méthode historique, c'est-à-dire le questionnement, l'identification des sources, le travail de critique sur les sources et l'écriture pour partager finalement cette histoire de manière dépassionnée, regarder les choses telles qu'elles se sont passées et ne plus être dans des postures ou dans des idéologies. C'est là où vraiment se situe l'enjeu profond autour de ces questions.
Et ça passe aussi par cette nouvelle génération ou pas ?
Oui, 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 je pense que toutes les générations ont apporté quelque chose. Nous avons déjà des historiens qui nous ont ouvert la voie. Et là, je reviens d'Algérie. Et il y a en Algérie une génération d'historiennes et d'historiens aussi qui sont très investis dans l'écriture de l'histoire, très investis dans la recherche de la vérité, de ce qui s'est passé pendant ces quelques années. Et je pense que réellement, en travaillant avec les nouvelles générations, les anciennes générations d'historiens des deux rives de la Méditerranée, on va pouvoir arriver finalement à écrire cette histoire qui nous manque. Une histoire où les postures de mémoire sont dépassées pour rentrer véritablement dans l'écriture historique.
Et vous intervenez donc très prochainement, le 5 juillet me semble-t-il, à l'Académie de géopolitique de Paris avec beaucoup de personnalités qui parleront de ce sujet à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession donc de l'Algérie à son indépendance. On est d'accord ?
Oui, tout à fait. Voilà, ça sera dans ce cadre-là. Donc, je parlerai effectivement de ce sujet, de cette urgence à basculer, je dirais, du côté de l'écriture historique et non plus dans la confrontation des mémoires. Et j'en profiterai aussi pour prendre l'exemple de ce travail de recherche que je mène depuis quelques années sur la guerre souterraine et l'utilisation de l'arme chimique en Algérie pour montrer tous les avantages qu'il y aurait à promouvoir ce travail de recherche historique à plusieurs mains en faisant appel aux historiens et historiennes des deux rives de la Méditerranée.
Oui. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Christophe Lafaye. Vous êtes historien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Les Informés.
Merci à vous.
Merci, au plaisir. Et on continuera, vous le savez, toute la semaine prochaine, dès lundi, à continuer à vous faire vivre ces 60 ans, donc ce 60e anniversaire concernant donc l'indépendance de l'Algérie, ici même, dans Les Informés sur Beurre FM. Continuez de recevoir les différentes personnalités, historiens, féministes, sociologues, personnalités aussi, politiques, qui viendront ici témoigner ou aussi apporter leur expérience. Donc, de tout de suite, nous allons accueillir les débatteurs influenceurs concernant nos sujets qui nous concernent. À tout de suite.
Les Informés, le face-à-face.
Avec Maître David Libeskind. Bonjour, Maître.
Bonjour, Adil.
Comment ça va? Bien?
Ça va. Bon. Ça va très bien.
Face à vous, eh bien, Hamid Chria, géopolitologue, éditorialiste. Comment ça va, mon cher Hamid?
Bonjour, très bien, et vous?
Polémiste, hein, aussi.
Polémiste, absolument.
Ouais. Non,
surtout.
Je ne suis pas polémiste.
Ça va, tout va bien?
Ça dépend des périodes.
Vous avez l'air sérieux aujourd'hui.
Il y a des périodes où il faut de la polémique, et il y a des périodes où il faut de la sérénité.
Oui, j'ai vu que vous avez beaucoup de sérénité, là,
Avez. Merci pour vos compliments.
Il arrive, aujourd'hui,
les auditeurs. Mais j'ai cru qu'il faisait la tête, même.
Moi aussi, je vous jure, c'est vrai, moi aussi, je croyais qu'il faisait la tête.
Ouais.
Le mec, il dit, ouais, tiens, va, on t'en fera un café. Ouh, ce soir.
J'ai la capacité à entendre les critiques. Ouais. On me dit un peu d'écouter plus, d'entendre, débattre avec sérénité.
Monsieur
Tarkan, il faut penser aux auditeurs.
Il est en train d'être habité par une sagesse.
Ah non, mais tu vas finir chez BFM si tu continues.
C'est ça.
Faut être excentrique.
Hamid Chriat, reviens. Clochette, revenez, Hamid. Il est passé où, l'Hamid, le vrai? Oh là là, il a été. C'est un autre Hamid.
Et puis les vacances aussi qui arrivent.
Je crois qu'il a une promotion, peut-être.
Elle a une promo?
Ah, peut-être.
Dites-le.
Ah non, il n'a pas tapé la cravate.
On va vous féliciter.
C'est en cours. Il est brillant, Hamid.
Bravo pour votre brillance. Bravo pour le parcours, évidemment. Messieurs, tout de suite, on va parler de Coquerel. Éric Coquerel, à la commission des finances. Oula, Le Pen qui fustige la responsabilité intégrale de LR, évidemment. Mais surtout, on viendra sur d'autres sujets aussi qui le concernent. Il y a quelques polémiques qui sont comme ça en train de sortir. Maître David Libeskind, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord, évidemment, concernant le tout nouveau président de la Commission des Finances?
Je ne comprends pas pourquoi il y a autant... Autant de scandales, autant de buzz là-dessus, parce que NUPES, en fait, c'est le groupe d'opposition majoritaire. Mmh. Ils ont 131
Certains
députés.
Certains vous diront que c'est le RN, mais bon.
Non, en fait, le RN, en termes de parti... Mais parce que la NUPES, c'est une alliance, ils ont 131 des députés et le RN, ils en ont 89 ou 90.
89.
Donc c'est une élection logique. Mmh. En fait, la présidence de la commission des finances est toujours donnée à un élu de l'opposition. C'est acté dans le règlement.
C'est dans la tradition.
Non, c'est même pas dans la tradition. C'est dans le règlement de l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est dans la. Ouais.
Tout à fait.
Et donc il y a Diallo qui dit, vous savez, sur une chaîne de radio, elle dit que le député Éric Coquerel, qui est à peine élu, il a eu un comportement suspect avec certaines femmes. J'ai plusieurs sources au sein de LFI.
Alors moi j'ai
vu. Ça saute.
Moi j'ai vu donner un scoop. Je le sais depuis longtemps.
Non.
Bah bien sûr.
Vous savez depuis longtemps.
Bien sûr, moi j'ai mes contacts à LFI.
Ouais.
On m'a toujours dit.
Confirmez donc ce que dit Rokhaya Diallo.
Non, après c'est quoi un comportement inapproprié? C'est toujours pareil.
Il y a comportement suspect, elle dit.
Oui, suspect ou inapproprié, c'est pareil. Après, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou pas. De toute façon, moi je suis avocat, donc je suis très attaché à la présomption d'innocence. À ma connaissance.
Donc il y a des dossiers qui vont sortir là.
À ma connaissance, il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre lui, que ce soit au sein de la commission de LFI, qui traite ce type de sujet.
Je vais pas prendre la défense d'Éric Coquerel, mais Éric Coquerel, c'est une personnalité, d'abord, qui a milité énormément. Ouais. On le voit dans les manifestations avec les Gilets jaunes. On l'a vu dans les manifestations.
Mais je vois pas le rapport, il n'y a aucun rapport.
Attendez. D'abord, je suis en train de lister son parcours. Je suis en train de lister son parcours politique pour savoir qui est monsieur Éric Coquerel. Ouais. C'est ce que les médias se sont posés comme question. Qui est monsieur Éric Coquerel? A-t-il les compétences? Est-ce que vous avez lu les journaux? Libération, Le Figaro, RTL. Voilà.
Moi, je mange les journaux.
Donc on s'est posé la question. Qui était monsieur Éric Coquerel? Donc je suis en train de répondre à qui est monsieur Eric Coquerel, puisqu'il a été élu président de la commission des finances. On s'est même posé la question de savoir s'il était compétent ou pas. Bon, pour d'autres personnes, on ne s'est pas posé cette question. Sur la question des certains questeurs, etc. Bref, sur cette question-là, Eric Coquerel, effectivement, quelqu'un de compétent. Maintenant, sur la polémique de Rokhaya Diallo, pour ne pas tourner autour du pot, ou tourner autour de l'embûche, comme on dit en anglais, autour de l'arbre. C'est une expression anglaise.
Comment on dit en anglais?
C'est the tree, l'arbre.
Non, on dit... Je reviendrai sur l'expression, mais I'm not going to.
Il y a droit de clochette, hein.
Non, mais c'est une fake là.
The bush. I'm not going to turn on the bush. C'est-à-dire ne pas tourner autour du pot. Ouais. Voilà, en
haut. D'accord.
Voilà, bush, c'est l'arbre, quoi.
L'arbre.
Le buisson, exactement. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'Éric Coquerel, effectivement, on dit des faits suspects. Mais attendez, aujourd'hui, donc, ça veut dire que si une personne drague une femme dans la rue, il doit être condamné?
Non, mais attends, ça dépend.
Attends, laisse-moi terminer.
Ça dépend le comportement. Bien sûr qu'on a le droit de draguer.
Ça veut dire quoi? Il a des éléments.
Comportement, ça veut dire quoi? Si les éléments, c'est de dire à une femme, aujourd'hui tu es mignonne, etc., etc.,
non,
après tout,
enfin,
je veux dire
que
tout le monde doit aller en prison. Non, mais voilà, si c'est
des rumeurs, en fait, qu'on m'a dit depuis des mois.
Quand est-ce que.
Attendez,
vous
n'avez pas parlé de rumeurs.
Un regard, on peut vous harceler avec un regard. Si une personne, dans ce cas-là.
Non, c'est pas un comportement inapproprié.
Pour certaines femmes, c'est un comportement inapproprié.
Si vous fixez une femme pendant. C'est du gestuel.
Si vous fixez une femme.
On va interroger nos auditeurs 0,53
que vous la fixez comme ça.
Est-ce que si on fixe une femme, est-ce que c'est
du harcèlement?
On va marquer juste la pause et on se retrouve tout de suite après.
Je crois qu'il faut faire attention.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
En 24, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, le débat s'annonce tendu et chaud, notamment avec Maître David Libeskind, avec Amine Chried. Mais surtout, je vous attends 0153 48 3000, parce que effectivement, nous parlons d'harcèlement. Comment vous considérez l'harcèlement? À quel moment? À quel degré? Et puis surtout, à quel moment vous estimez vous-même vous sentir harcelé? Et sous quelle forme? 0153 48 3000, votre témoignage, évidemment, nous s'intéresse et je voudrais qu'on en parle. Messieurs, Rokhaya Diallo qui accuse sur RTL le député Éric Coquerel, d'accord, que le président de la commission de l'Assemblée nationale a des comportements suspects. À quel moment peut-on considérer, Amine Chriat avant la pub parler, alors si une nana est regardée en permanence, est-ce qu'on peut dire que c'est du harcèlement?
Voilà, parce qu'on peut dire
Maître David Lévesquit, franchement.
Attendez, je sollicite nos auditeurs
partout en France au 0153 48 3000, notamment les femmes et les hommes.
Non,
Maître David.
Non, moi,
alors,
au regard
une femme,
du droit, au regard
je
du
regarde
droit.
Avec insistance une femme. Est-ce que c'est du harcèlement?
Non, c'est pas du harcèlement. Moi, je pars du principe que c'est du harcèlement à partir du moment où il y a des gestes physiques inappropriés.
Si je la touche.
Tu vois, si vous la touchez, oui.
Si vous la connaissez pas.
Si vous la touchez, vous réitérez le fait de la toucher, oui, c'est du harcèlement, voire une agression sexuelle.
Voilà.
Si vous envoyez des SMS pendant des semaines ou des mois, c'est du harcèlement.
Je suis d'accord, il faudrait aussi parler du harcèlement des hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont harcelés dans la rue avec des regards,
plus de femmes, apparemment.
Des touches, etc. Et tout. Oui, mais on parle jamais des harcèlements concernant les hommes. On parle toujours pour les femmes. Ça existe
bien
aussi.
Bien sûr. Comme des hommes battus.
Il faut le souligner. En ce qui concerne Madame Rokhaya Diallo, soit elle a des éléments et elle les donne à la justice et la justice fera son travail ou aux médias.
Tout à fait.
Par contre, lancer comme ça une polémique.
Ben elle dit simplement j'ai plusieurs sources.
Une polémique.
Au sein de
l'AFP. Lancer comme ça une polémique. Et c'est toujours la même mécanique. C'est lorsqu'un. Moi je n'accuse pas. Moi je dis peut-être qu'il y a des violeurs. Je ne sais pas. Il y a la présomption d'innocence. Ça,
tout à fait.
C'est dans le droit. Comme par hasard, quand il y a des nominations de ministres, il y a des affaires. Moi je dis ces femmes-là, quand elles se font harceler, etc., pourquoi avant elles n'ont pas porté plainte?
Ouais.
C'est ça que moi je ne comprends pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre.
Certaines ont porté plainte à l'époque.
Certaines.
Hein. Simplement, ça rejaillit.
Donc, moi, j'aimerais, si vous voulez, que ces affaires-là sont prises au sein de la justice, qu'il y ait des lois, qu'il y ait une commission, etc. et tout, qu'on travaille sur cette question-là. Vraiment, qu'il y ait une loi, qu'on renforce, effectivement, le cadre juridique.
Je sollicite.
Mais sur la question de Mme Rokhaya Diallo, mis à part d'aller aux États-Unis et de faire son blabla Rokhaya Diallo parce qu'on la connaît très bien.
Pourquoi vous lui en voulez?
Non, attendez.
Ouais, il a
un passif avec
lui. Non, j'ai aucun passif historique. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, Rokhaya Diallo me demandait des conseils sur les questions africaines. Donc, je lui avais écrit des trucs sur des questions africaines, donc je suis bien placé. De deux, je ne suis pas ami avec Rokaya Diallo, donc je ne la connais pas, mais on aimerait bien aussi voir Rokaya Diallo venir de temps en temps à Beurre FM et discuter des quartiers populaires et d'être sur le terrain. Au lieu aussi.
Je ne vois pas le rapport.
Elle vient, mais bon, il n'y a pas le rapport.
Oui, mais il y a un rapport aussi parce qu'on voit.
Non, il
n'y
a aucun rapport.
Maître David Jemiski,
il
vous dit
que.
Il est où le rapport?
Tant qu'il n'y a pas de plainte, Eric Coquerel, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi quel intérêt
les accusateurs
elle a propagé ce type de rumeur.
Là, tu essaies de te rattraper, mais les accusateurs
comme toi. Je ne me rattrape pas du tout.
Non, les accusateurs comme toi. Bah, si, tu es en train de monter en puissance.
Non, je n'accuse personne. Moi, j'ai dit, en fait, il y a plusieurs mois, on m'a dit la même chose.
Bah, voilà. Donc,
dans des milieux journalistiques, concernant M. Coquerel. Mais je ne dis pas qu'il est. Je ne dis pas qu'il. Non.
Mais tu dis que tu as des preuves, donc tu l'accuses de facto.
Bah, non. Non, parce que je le dis.
Alors, maître David Jemiski,
le dire, c'est l'accusé.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable.
Il n'y a pas de
plainte. La commission, le LFI qui s'occupe de ce genre de dossier n'a même pas été saisie.
Rokaya Diallo, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Attendez, Rokaya Diallo, qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Quel intérêt elle a à faire ça?
Attendez, on va expliquer à nos auditeurs. Rokaya Diallo, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que M. Tarbouaf a été condamné, c'est une personne d'origine maghrébine, et qu'elle est fille soi-disant, soutiendrait des gens blancs quand c'est des noirs et des arabes. En gros, voilà, on les met sur le côté. C'est ça, en fait, le message qu'elle veut faire passer. C'est
vous
ça. Ouais, monsieur, je suis non seulement sûr, mais en plus certain. C'est une interprétation politique que j'ai. Qu'on la respecte, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, moi, je respecte vos choix.
0153483000, je vous attends.
Procureur de la République, je n'accuse pas les gens.
On va accueillir Karim.
Vous êtes avocat, vous devriez respecter la présomption d'innocence, monsieur.
S'il vous plaît, monsieur.
Vous devriez respecter la présomption d'innocence. Vous êtes un mauvais avocat, monsieur. Je vous le dis.
Karim, devant les juges de Tremblay. Bonsoir, Karim.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue mon cher Karim, on vous écoute.
Merci, merci. J'ai pris en cours le débat là, et je suis tombé sur... c'est toujours un peu chaud à Beurre FM.
Oui, toujours.
Je suis tombé sur une intervention, je crois que c'est Ahmed Chrieff, je crois.
Ahmed Chrieff, exactement.
Qui vient d'intervenir.
Oui.
Ouais. Ça me choque un peu ce qu'il a dit par rapport au fait de savoir si c'est un harcèlement ou pas.
Oui.
Moi, je me pose la question, est-ce qu'il a une sœur ou est-ce qu'il a une femme qui travaille?
Oui.
Moi, j'ai ma femme qui travaille, elle peut côtoyer les hommes. Moi, ça me gênerait beaucoup.
Est-ce qu'il
me racontait qu'il y a un homme qui la regarde tout le temps, ou ma sœur, etc. Je me mets à la place des femmes.
Karim, c'est quand même gênant. Karim, il vous répond là.
Mais moi, j'ai dit le contraire.
Il vous répond.
Je pense que tu m'as mal écouté. C'est David qui a dit le contraire. Moi, j'ai dit que.
Oui, pas du tout. Tu m'as mal écouté.
Une personne qui n'arrêtait pas de vous regarder, c'était abusé. C'est ce que moi, je disais, effectivement. Mais je dis que, comme par hasard, dans ces cas de preuve, quand M. Damien Abad ou d'autres, comme par hasard, quand il y a des nominations, ces personnes-là viennent témoigner. Pourquoi elles n'ont pas témoigné avant? Un, je me pose la question. Deux, je ne suis pas naïf. Et trois, je me dis qu'il y a la présomption d'innocence. Donc, laissons la justice travailler en amont pour savoir. Quel est le sens des responsabilités? C'est simplement cette question
Karim,
que je pose. Voilà.
Karim.
Mais vous avez eu raison. Là-dessus, merci, vous avez totalement raison. Je suis 100% d'accord. Mais par rapport au fait de dire quand est-ce qu'il y a un harcèlement? Moi, c'est ça qui me gêne. Moi, pour moi, le harcèlement, il commence.
Mais on n'a pas de
Excusez-moi. Il commence au moment où une personne est insistante. Moi, je suis un homme, ça m'est arrivé de draguer. Si je vois qu'une fille. Répond pas, on va dire, à mes attentes. Je veux pas insister, je veux pas être lourd.
Évidemment.
Et pour moi, c'est là que ça commence. Voilà, on peut draguer, il n'y a aucun souci.
Exactement.
À partir du moment où il y a de la bulle,
c'est ce que vous dit Karim. Attendez, s'il vous plaît, c'est ce que vous dit Karim, l'avocat qui est avec nous sur le plateau, Maître David Jemiski, il vous confirme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire il y a une limite, la limite du harcèlement.
Non, mais déjà, la première limite, c'est que si elle dit non, c'est pas la peine d'insister. Si elle dit un non ferme et qui apparaît définitif, c'est pas la peine d'insister. Et après, c'est la gestuelle physique. Je veux dire, si vous la prenez par le cou alors que c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, et si vous insistez et que vous continuez, là, c'est presque une agression sexuelle au regard de la loi.
Pour moi, c'est une agression. C'est une agression.
Bah oui.
Quand quelqu'un prend par le cou, que ce soit un homme ou une femme.
Exactement.
Moi, quelqu'un prend par le cou, sauf si c'est mon pote qui m'enlace ou quoi. Je veux bien, mais c'est déjà une agression pour moi.
Pour en revenir à Eric Ocre, évidemment, c'est des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ce qui est étonnant, c'est des rumeurs qui viennent de plusieurs sources. Hein. Il n'y a pas assez de journalistes. Bien entendu, il est présumé innocent. Bien entendu, il n'y a pas eu de plainte. Mais on ne peut pas dire que Hamida a raison, parce que dans 90% des cas, les commissariats refusent les plaintes.
Mais monsieur, je ne cherche pas à avoir raison. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que vous donnez crédit à ces rumeurs.
Il y a également de l'impunité.
Vous dites que c'est des rumeurs, vous êtes avocat quand même, et vous êtes censé incarner
la loi. Non, mais là, t'es dans ton récit, là. T'es pas dans mon récit,
cher monsieur.
T'es dans mon récit. Tu n'écoutes pas, Hamid. Tu n'écoutes pas.
Vous êtes censé représenter, incarner la loi, et ça.
Je ne représente pas la loi.
Vous êtes avocat.
Non, qui représente la loi, c'est les députés, ceux qui votent les lois.
On revient en parler justement, messieurs. Maître David Limeskind et Hamid Shriet. Il est 19h32. Je voudrais pas qu'on se mette en retard. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Merci à Karim d'être intervenu de Tremblay. Merci pour vous et de votre fidélité. Michel Taube, bonjour, c'est le patron d'Opinion International. Bonsoir, mon cher Michel. Comment ça va?
Bonsoir à vous, Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Oui, ils sont très, très nombreux, comme chaque soir.
Absolument.
Comme chaque vendredi, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, et bien cette fois-ci, à la prise d'otage que vous appelez, vous, des vacanciers par les grévistes transports. Nous vous écoutons, mon cher éditorialiste.
Alors, effectivement, je voudrais pousser un petit coup de gueule.
Allez-y.
Et pour une raison très, très précise. Là commencent les départs en vacances. Il y a des centaines de milliers, bientôt des millions de Français qui vont, pour ceux qui peuvent partir en vacances. Et les grèves se multiplient dans les transports, dans les aéroports. Il va y avoir des grèves également de la SNCF le 6 juillet, si je ne me trompe pas. Ça commence à chauffer sur le terrain social. Alors, attention. Qu'on s'entende bien.
Oui.
Je suis conscient qu'il y a une question sociale terrible, qu'il y a des problèmes de fin de mois pour beaucoup de nos concitoyens. Je le comprends, je le conçois.
Et ils ont témoigné sur l'antenne, et c'est catastrophique.
Oui, absolument. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les syndicats n'attendent-ils pas le vote de la loi sur le pouvoir d'achat? Il y a un nouveau Parlement qui se met en place. Il y a eu des élections présidentielles et législatives. Le premier projet de loi qui va être discuté, il porte sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir dans 15 jours, 3 semaines, des mesures très importantes, nombreuses, pour tous les publics en difficulté, d'augmentation du SMIC, d'augmentation des minima sociaux, d'aide sur du bailleur chèque alimentaire, qui d'ailleurs relève un peu de la commisération, mais quand même. Donc, il va y avoir plein de surprises. Pourquoi est-ce qu'ils n'attendent pas le résultat du débat démocratique et des mesures qui vont être prises pour nous dire, non, on n'est pas content, ça ne nous suffit pas, on se met en grève. Là, ils font le contraire. Ils se mettent en grève, ils bloquent le pays avant même que la représentation nationale n'ait eu le temps de dégainer des mesures qui peut-être vont les satisfaire. Ça, c'est vraiment très français, c'est vraiment prendre en otage les Français, alors même que dans un pays démocratique, développé, on discute d'abord, on laisse les politiques agir, et après, on voit si c'est suffisant ou pas. Je vous donne un dernier exemple qui est particulièrement choquant. On vient d'apprendre cet après-midi le dépôt d'un préavis de grève massif de tous les maîtres nageurs de la ville de Paris.
Oui.
Donc, ça veut dire que pendant le mois de juillet et d'août, peut-être que la plupart des piscines parisiennes seront fermées.
C'est vrai.
Pour tous les jeunes franciliens, français, parisiens, qui ne peuvent pas partir, et ils sont très nombreux, ils ne vont pas pouvoir aller s'aérer à la piscine. Franchement, c'est inadmissible.
Oui.
C'est inadmissible. Qui discute d'abord, qui essaie de trouver un compromis, qui voit ce que le politique fait, et après, ils prennent des dispositions, et ils ne prennent pas en
place. Jimmy Dalidou, vous auriez dit révolution.
oui, mais en Italie, par exemple, c'est interdit de faire grève pendant les vacances de Pâques, les vacances de Noël, les départs en vacances et les retours de vacances. C'est quand même la moindre des choses pour permettre à nos concitoyens d'aller en vacances, de rejoindre leur famille.
Mais surtout qu'ils ont besoin de respirer, effectivement.
Je trouve qu'on marche sur la tête, je trouve qu'on aurait dû attendre que le Parlement délibère sur la question du pouvoir d'achat, et après, s'ils ne sont pas contents, allez-y, faites la grève, mais ne prenez pas en otage les Français. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal et ce n'est pas correct.
Voilà le coup de gueule de Michel Taube. Je sens qu'il va faire réagir nos auditeurs au 0153-48-3000, comme chacun d'ailleurs de vos billets d'humeur dans Quoi de neuf. Merci mon cher Michel Taube. Vous partez un peu cet été d'ailleurs ou pas?
Écoutez, 15 jours au mois d'août, mais peut-être, c'est même pas sûr, mais je serai là en juillet. Mais j'espère que vous, vous prenez des vacances, mon cher ami.
Au mois d'août. Finis ma mission, donc vers, tout le mois de juillet, je suis là, et puis le mois d'août, j'irai respirer enfin, évidemment, comme beaucoup de nos auditeurs. Michel Taub, à la semaine prochaine, sans faute.
À la semaine prochaine, merci à vous. Auditeurs de
BFM. Absolument, merci à vous également. Prenez soin de vous, un très bon week-end. Nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Maître David Limeskid, avec Hamid Chriet qui a provoqué évidemment un débat, un vif débat intéressant, riche ici effectivement et qui s'installe. 01 53 48 3000. Vous avez vu ces accusations donc concernant Éric Coquerel. On continue d'en parler, notamment Rokhaya Diallo qui a lancé une polémique concernant évidemment Éric Coquerel. Alors, la raison pour laquelle Hamid Chriet, il dit, pourquoi lance cette polémique maintenant ? Bon, Rokhaya Diallo, que vous connaissez, elle a l'habitude d'être dans les informés. J'y régulièrement, je l'invite. Féministe, essayiste, écrivaine, bref, chroniqueuse. On revient en parler ici même. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, de Poutine. Parce que j'aimerais qu'on dise, certains commencent à parler et trouvent évidemment le comportement de Vladimir Poutine agir en toute impunité. Nous reviendrons sur ce sujet. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h43-44 précisément et le face-à-face continue avec Hamid Chriet, avec Maître David Levinskid. Mais surtout, vous êtes nombreux à nous appeler au 01-53-48-3000. Jingle, c'est parti.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
C'est vrai que la question se pose. Éric Coquerel à la tête de la commission des finances. Rokhaya Diallo qui jette un pavé dans la mare en disant qu'effectivement il a eu un comportement suspect selon certaines sources. Tiens, je vais accueillir Mehdi de Saint-Gratien, ensuite Mohamed de Paris. Mehdi, bonsoir Mehdi.
Oui, bonsoir.
Comment ça va mon cher Mehdi ? On vous écoute.
Ça va, alhamdoulilah. Là, je vous appelle par rapport à un intervenant là, que je viens d'entendre dans votre radio.
Oui, Maître David Limeskid ou Hamid Chriet ?
Non, un intervenant, quelqu'un qui a appelé.
Un auditeur, donc Karim de Tremblay.
Oui, sûrement, oui, je ne me rappelle plus de son prénom. Qui vous appelle par rapport à la grève du transport.
Oui. Ah non, c'est Michel Taube.
Oui, Michel Taube.
Ah oui, c'est le coup de gueule.
Bah,
c'est
voilà.
Ah non, mais lui, attendez, c'est pas un auditeur, c'est un éditorialiste chez nous, lui. C'est pas n'importe qui. Il est éditorialiste chez nous. Il signe des billets d'humeur chaque vendredi.
Il n'y a pas de souci sur ça, mais par contre, ce qu'il m'a dit, moi, ça m'a beaucoup gêné.
Allez-y, on vous écoute. Il vous écoute, allez-y, lâchez-vous.
Moi, je suis dans le transport. Et malheureusement, le seul poids qu'on a pour se faire entendre, c'est la grève.
Il a raison, oui. Il a raison.
Et la grève, malheureusement, pour se faire entendre, il faut qu'elle fasse mal. Et comment on peut faire mal? Bah, c'est faut attendre juillet, août, il faut attendre la rentrée scolaire.
Voulez pas lui dire et qu'il fasse en sorte de vous répondre aussi, franchement? Tiens, je vais appeler Michel, on va le rappeler. On va rappeler Michel et vous allez lui dire midi. Non, mais parce que c'est intéressant ce que vous dites.
Mais il a raison,
ce que
je veux dire. Enfin, moi, je trouve qu'il a raison. L'intérêt est de faire grève.
Le dimanche, quelle personne travaille.
Bah où?
Le patron va me dire, bah continue, fais ça toute l'année, moi, il n'y a pas de problème.
Demande-lui s'il veut bien, justement, intervenir. Demandez-lui.
En tout cas, Mehdi, pour mettre un peu de l'eau à votre moulin, c'est que c'est avec les grèves qu'on réussit à gagner des, je dirais, des combats sociaux.
Bah oui, mais il a raison de faire grève l'été. Il faut une grève gênante, autrement, c'est pas une grève.
Mais Michel Taub disait justement.
On fait ça le samedi et dimanche, voilà. Parce que, n'oubliez pas, un gréviste.
Perd de son salaire.
Il perd de l'argent.
Mais oui.
Oui.
Et à la fin du mois, ce gréviste, il va peut-être se retrouver à zéro.
Oui.
Et moi, c'est ça que je trouve malheureux. C'est ça qui me fait. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est pas que la personne ne puisse pas aller en vacances.
Oui.
Bah
oui.
Voilà la différence.
Je vois la différence, effectivement. Vous savez quoi? Nous allons. Attendez, vous soulevez quelque chose qui est partagé par pas mal d'auditeurs, justement. Notamment nos débatteurs influenceurs. Michel Taub est avec nous ou pas? Est-ce qu'il veut bien converser, justement, avec Mehdi? Tiens, en attendant, Mehdi, reste avec moi, Mehdi. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Mohamed de Paris. Bonjour, Mohamed.
Pardon?
Bonjour, Mohamed.
Oui, bonsoir. Salam alaikum.
Oui. On vous écoute, mon cher Mohamed. Bienvenue.
Alaikum salam.
Oui.
Salam alaikum.
Alors, moi, je vais mettre tout le monde d'accord.
Oui.
Oui.
Alors, moi, j'ai fait 1068.
Oui.
Ça vous a dit quelque chose?
Oui.
C'était lutte, on a obtenu pas mal de choses.
Oui. Ah bah alors attendez, voilà, Mohamed, attendez, parce que j'avais cru comprendre que c'était le même sujet. Ne bougez pas, Mohamed. Mohamed, restez avec moi, parce que vous, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous allez nous embarquer dans un autre sujet. Mehdi, je veux le retour de Mehdi. Mehdi qui a interpellé notre éditorialiste Michel Taube. Il vous écoute, Michel. Michel, vous êtes là aussi?
Absolument,
également?
Absolument, je suis là, tout à fait.
Alors, vous savez quoi? Pardonnez-moi, Michel, de vous rappeler. J'ai demandé au Standard de vous rappeler, parce que Mehdi n'est pas content de votre billet d'humeur. Ah, et il me dit, non... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mehdi, il vous écoute, Michel Taube. Allez-y, Mehdi.
Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne fait pas une grève juillet-août ou en pleine semaine, en rentrée scolaire, là où il y a beaucoup de monde. Si on fait ça le samedi et dimanche, le patron il est heureux, le patron du courant.
Ben oui. Oui.
Il va me dire, mais faites ça toute l'année, moi il n'y a pas de souci, samedi et dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si on lui fait ça, juillet-août, là où il y a beaucoup de départs en vacances, rentrée scolaire, les gens doivent aller travailler en pleine semaine et tout, là, il va peut-être réfléchir à deux fois.
Ouais, et vous êtes concerné, vous, Mehdi, vous savez de quoi vous parlez, effectivement.
Moi, je suis concerné, moi.
Vous êtes concerné par ça, Mehdi. Michel Taube, vous lui répondez quoi, justement? Parce que là, c'est un peu le ras-le-bol quand on écoute Mehdi. Ils sont nombreux à partager ça. Vous avez suscité beaucoup de réactions, mon cher Michel. Vous dites quoi?
Écoutez, je dis que, à mon avis, le politique, il ne réagit pas en fonction de la quantité de Français qui sont, on va dire, excusez-moi, je vais employer un mot vulgaire, emmerdés par les effets de la grève. Je pense qu'en fait...
Mais moi, c'est pas le politicien qui va emmerder, moi, c'est pas trop. Nous, c'est pas le politicien, monsieur.
Monsieur Mehdi. Monsieur Mehdi, si je peux finir. Je vais vous dire, je vais vous donner une raison supplémentaire de ne pas être d'accord avec moi. J'ai trouvé scandaleux, que le soir du fameux match au Stade de France entre Liverpool et le Real de Madrid, le début des problèmes qui ont eu lieu, ça a été la grève du RERB, alors qu'il y avait
quelques
Mais ils ont raison.
Ils ont raison, bien sûr. Ils font pas ça là où il y a du monde. Comme ça, quand il y a personne, quand ils font ça un jour sérieux.
Monsieur,
mais le patron va dire, mais faites ça tout le temps.
Monsieur Mehdi, ce sont des fonctionnaires qui ont des obligations de service public. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fonctionnaires sont là pour aider le public à avoir un service. Vous ne pouvez
pas... Non, monsieur, on ne va pas revenir en arrière. On n'est pas à l'esclavage. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre.
En Italie, en Allemagne et dans d'autres pays, le droit de grève, il est tout aussi important en France, mais il est encadré par des...
Le dialogue social n'est pas pareil en Italie.
Mais oui, mais...
Merci, le dialogue social n'est pas pareil.
C'est l'avocat qui parlait.
En France, on a plus de...
Non, mais vous avez raison, le dialogue social n'est pas pareil.
Je suis désolé, c'est une grève de riches. Les fonctionnaires français ont beaucoup plus de droits que les fonctionnaires italiens et allemands. Ils ont une protection sociale qu'ils n'ont pas.
Michel
Taube. Michel Taube, attendez. Vous avez lancé...
Michel Taube,
vous avez lancé un grand débat. Attendez, Mehdi, on voudrait juste... Mehdi, vous répondez quoi, Mehdi? Et ensuite, Mehdi. Mehdi.
Je réponds déjà qu'on est en France. Je ne vis pas en Italie, je ne vis pas en Allemagne, en France. Moi qui suis dans le transport, grâce à Madame Pécresse qui a mis la mise en concurrence, moi j'ai perdu sur mon salaire entre 300 et 400 euros.
C'est énorme.
Ouais.
De salaire.
Ah, bien sûr.
C'est énorme.
J'ai perdu des congés payés. Vous vous rendez compte que mon temps de pause, le maximum, et de 5 minutes.
Oui.
Je fais quoi en 5 minutes?
Monsieur Mehdi, je vous comprends. Mais moi, je parlais.
Mais comme la Convention française. Monsieur, comme vous parlez en France, vous parlez des conventions. La Convention française me donne le droit à 4 fois 5 minutes.
C'est la convention collective. Oui, la convention collective du transport.
Est-ce que j'ai le temps de manger? Est-ce que j'ai le temps d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai le temps de me reposer? Est-ce que j'ai le temps de tuer quelqu'un?
On parle de choses pratiques, ouais.
C'est transport.
Alors, comme on arrive au terme de cette émission, Mehdi, effectivement, merci pour ce fort témoignage, vous avez raison. Et Michel Taube, émouvant aussi. Michel Taube, qui a, comme à son habitude, lance évidemment tous ses billets d'humeur, lance en permanence des débats. Et c'est une très bonne chose si ça se passe ici sur BFM dans les informés. Michel Taube, d'une seconde, d'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? D'un mot.
Moi, je dis que rien n'est meilleur que le dialogue social. Il a progressé ces dernières années, contrairement à ce que laissent croire beaucoup de syndicalistes. Mais on peut faire beaucoup mieux.
Parce que M. Macron, c'est pour ça qu'il y a plus de dialogue social.
Parce que vous avez maintenant des avocats à l'Assemblée nationale qui sont notamment la France insoumise, des socialistes, etc., qui sont beaucoup plus présents qu'ils ne l'étaient dans la précédente mandature. Faites confiance aux politiques pour trouver des solutions meilleures. Et après, si vous n'êtes pas content, faites grève, mais ne prenez pas en otage des Français. Essayez de trouver des modes d'action qui sont moins pénalisants.
Bon. Je me mets moi dans la galère pour lui dire, limite, s'il vous plaît, donnez-moi des bonnes conditions de travail. Moi, à la fin du mois, j'avais même pas de quoi payer.
On sent que ça devient explosif, effectivement. Mehdi, on va poursuivre tout ce débat dès la semaine prochaine. Je vous le garantis, parce que c'est aussi notre rôle. Mehdi, merci infiniment de Saint-Gratien, Mehdi, qui nous appelait. Merci Michel Taube. Évidemment, je vous ai rappelé, mais merci d'avoir eu cet échange avec certains de nos auditeurs. Merci Michel. Mohamed, malheureusement, je ne veux pas pouvoir vous accueillir parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je vous reprends la semaine prochaine, mon cher Mohamed. Désolé, mais bon, écoutez, c'est aussi... on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, de cet échange? Qu'est-ce que vous retenez de cet échange, Maître David Lemesquide?
Ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas comparer la situation de l'Italie, l'Allemagne et la France, puisque le dialogue social n'est pas le même. En Allemagne, on sait très bien que le dialogue social est très fructueux, qu'ils n'ont pas besoin de faire grève, alors qu'en France, on a toujours été dans un rapport de force entre le gouvernement, les syndicats et entre le MEDEF et les syndicats. C'est notre culture française, c'est notre culture conflictuelle du dialogue social.
Ahmed Triet, vous dites quoi? C'était chance qui est d'ailleurs riche.
N'oublions pas les fondamentaux, comme a dit Michel Taube. La politique doit servir le peuple, l'intérêt du peuple. Et malheureusement, nous sommes obligés aujourd'hui de faire la grève pour effectivement avoir un rapport de force, pour avoir un progrès social. Il suffit simplement de lire notre histoire et lire le Code du travail.
Merci.
C'est 200 ans de grève.
200 ans de grève, vous avez raison.
De révolte sociale.
De révolte
pour avoir effectivement ce progrès social-là.
Merci Amit Friat. Merci Amit.
Et il faut faire un édito contre Macron.
Merci Maître David Lemesquide. Merci à tous nos auditeurs qui sont intervenus. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité parce que c'est aussi vous les informer. À la réalisation, c'était Yanis. Vous allez retrouver Bilal Nedman. Bilal Nedman et son riche programme qui vous attend, notamment très sportif, comme d'hab d'ailleurs. Time Sport de 20h à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Mais surtout, on ne lâche rien. À lundi.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.